Vous pouvez rester assis. D'habitude, je vous dis de vous asseoir, donc là, je... Un pasteur était invité à déjeuner chez un très riche propriétaire terrien texan. Et après le repas copieux, notre hôte emmena le pasteur sur un endroit en hauteur, d'où il pouvait voir toute la propriété à 360 degrés. Montrant les puits de pétrole disséminés dans le paysage devant lui, l'homme dit fièrement, « Il y a 25 ans, je ne possédais rien. Maintenant, aussi loin que vous pouvez regarder, tout est à moi. » Ensuite, il se tourne dans la direction opposée, vers les champs de blé, à perte de vue, et il dit, toujours fier de lui, « Tout cela aussi est à moi. » Puis il se tourne vers l'est, où se trouve un immense troupeau de bétail, et il ajoute toujours fièrement, « Tout cela, c'est aussi à moi. » Enfin, il se tourne vers l'ouest, en direction d'une immense et belle forêt, et conclut avec fierté, « Ça aussi, c'est à moi. » Notre homme s'arrête, s'attendant à être complimenté par le pasteur pour son grand succès. Mais le pasteur garde le silence, du moins pendant un certain temps. Puis, après quelques secondes qui semblent bien longues, il pose sa main sur l'épaule de son ami et pointe en direction du ciel et demande simplement « Et dans cette direction-là, combien est-ce que vous avez ?» Le texte que j'aimerais méditer avec vous ce matin va nous interpeller sur le sens et la valeur de ce que nous possédons. Nous possédons tous quelque chose. Et à bien des égards, nous sommes riches. Nous sommes des nantis à l'échelle de la planète. En tout cas, par rapport à une très grande majorité des habitants de cette terre. Nous sommes riches de biens matériels, mais sommes-nous riches pour Dieu? Cette question à laquelle nous allons réfléchir ce matin vient directement du passage que nous allons méditer. Lors des deux dernières prédications, de mes deux dernières prédications, j'ai repris la parabole que nous avions méditée pendant la semaine en réunion de quartier. Ce matin, il s'agit aussi d'une parabole, et nous l'avons aussi méditée en réunion de quartier, mais il y a quelques mois en arrière, c'était au mois de novembre. Ceux qui y étaient s'en souviendront. Notre texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12, et je commence la lecture au verset 13. Il s'agit de la parabole du riche insensé, appelée aussi la parabole de l'homme déraisonnable ou du riche déraisonnable. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit, « Veillez à vous garder de toute avidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait se disant, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. » Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je vous propose trois clés d'entrée pour aborder cette parabole, la parabole et son contexte, la parabole introduite et la parabole expliquée, et c'est ce troisième et dernier point qui sera de loin le plus fourni. La parabole et son contexte. Jésus est en train d'enseigner, la foule est nombreuse, le texte nous dit que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour l'écouter. Et il y a tellement de monde, dit le verset 1 de ce chapitre 12, que les gens s'écrasaient les uns les autres. Si Jésus parle à la foule, le texte précise qu'il parle néanmoins en premier lieu à ses disciples. Et il leur parle de toutes sortes de choses. Dans les versets qui précèdent notre parabole, il est question d'hypocrisie, il est question de l'enfer, il est question du péché contre le Saint-Esprit. Jésus est en train d'enseigner toutes ces choses quand soudain, quelqu'un de la foule l'interpelle. C'est ce que nous avons lu. À l'évidence, l'homme n'est pas en train d'écouter ce que Jésus dit. La question qu'il lui pose n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Verset 13, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il semblerait que notre homme veut que Jésus règle une dispute familiale. Cependant, il ne lui demande pas d'examiner la situation dans le détail puis de donner son opinion. Non, il veut que Jésus tranche tout de suite et en sa faveur. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Le texte ne précise pas si notre homme est dans son bon droit ou pas. A-t-il été lésé par son frère ? A-t-il été volé ? Rien n'est dit à ce sujet. La pratique de l'époque voulait que l'aîné reçoive le double du cadet. Peut-être que c'est de cela dont il s'agit ici. La réponse de Jésus au verset 14 peut surprendre. Jésus dit, Jésus répond à cet homme, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Jésus refuse de prendre parti. Il refuse de se laisser détourner de sa mission. Non, il n'est pas venu pour régler les problèmes financiers des uns et des autres. Il est venu pour attirer des hommes à lui, pour les sauver de leurs péchés. Jésus voit dans les cœurs. Et il voit le problème de cet homme qui l'interpelle. Et comme c'est souvent le cas, il saisit l'occasion qui se présente à lui pour enseigner et pour avertir. Début du verset 15, puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité ». Le problème de notre homme, c'est à l'évidence l'avidité ou la cupidité. Le mot qui est utilisé ici en grec signifie simplement « désir avide de posséder plus ».« Désir avide de posséder plus ». Ce que les premières paroles de Jésus disent à notre homme et à ceux qui l'entourent, c'est que son cœur, c'est son cœur qui doit changer premièrement, et non pas la répartition de l'héritage. Le vrai problème de notre homme, et Jésus met le doigt dessus, c'est son cœur cupide, c'est son désir avide de posséder plus. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus dit ici. Jésus ne met pas seulement en garde contre la cupidité, contre le désir de posséder plus, il va aussi expliquer le véritable danger qui découle de la cupidité. C'est la fin du verset 15. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Le véritable danger, dit Jésus, c'est le faux sentiment de sécurité que produit l'abondance. Bien sûr, il faut le souligner, l'abondance ne vient pas forcément de la cupidité. Ça serait un raccourci malvenu que de le dire. Je peux être dans l'abondance pour toutes sortes d'autres raisons, dont certaines sont tout à fait honnêtes et légitimes. Il fallait le souligner. Mais voyez-vous, la cupidité amène tôt ou tard à l'abondance des biens matériels. Et dans l'abondance, en particulier, il est facile de croire que c'est cela la vraie vie. Il est facile de croire dans l'abondance que nous maîtrisons tout, que nous sommes maîtres de notre destin. Il est facile dans l'abondance de se reposer sur ses lauriers. Il est facile dans l'abondance de placer sa confiance dans ses biens, dans ses richesses. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il est possible d'agir autrement quand je suis dans l'abondance. Mais le danger est réel. Jésus, lui, affirme dans notre texte que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même dans l'abondance. Et que vivre ainsi, c'est une folie aux yeux de Dieu. Et cette folie, Jésus va l'expliquer au travers d'une parabole. Pour illustrer la vérité que la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens, Jésus raconte la parabole du riche insensé. Nous passons à la parabole introduite. Nous l'avons rappelé ces derniers dimanches, la parabole était un des moyens d'enseigner que Jésus affectionnait particulièrement. Et on trouve un peu plus de 50 paraboles différentes dans les évangiles. Qu'est-ce qu'une parabole ? C'est une histoire simple, inventée, plausible, de la vie quotidienne qui décrit généralement une vérité spirituelle. Et cette histoire fonctionne sur le principe de l'analogie. Il y a très souvent dans les paraboles un ou plusieurs éléments provoquants. Des éléments provoquants qui vont susciter la réaction de l'auditeur, qui vont l'amener à prendre position pour mieux enfoncer le clou de la vérité enseignée. Et l'exemple classique de l'élément provoquant dans une parabole, c'est bien évidemment le gentil de la parabole du bon samaritain, qui est le samaritain, l'ennemi héréditaire des Juifs, alors que les hommes pieux d'Israël sont ceux qui manquent de miséricorde. Dans notre parabole, l'élément choquant est sans doute le verdict sévère de Jésus sur la vie d'un homme à laquelle semble attacher la bénédiction de Dieu. En effet, dans l'Ancien Testament en particulier, l'abondance était le signe de la faveur de Dieu, le signe de la bénédiction de Dieu. C'est clairement visible dans tout l'Ancien Testament et en particulier à l'époque des patriarches, mais pas que. Pour la foule, notre riche fermier, au bénéfice d'une récolte exceptionnelle, ne peut avoir été que béni par Dieu. Et le jugement de Dieu sur la vie de cet homme a dû choquer et interpeller les auditeurs de Jésus. Venons-en à l'histoire de notre parabole, qui, soit dit en passant, ne se trouve que dans l'évangile de Luc. Que se passe-t-il dans notre parabole ? Nous avons un homme riche qui, après une très très bonne récolte, s'enrichit davantage. Et voilà notre homme placé devant un problème. Que faire de tout ce grain supplémentaire puisque ses greniers sont déjà pleins ? Et la solution qu'il trouve après réflexion est d'abattre les anciens greniers, d'en construire des plus grands, afin d'y mettre l'ancien et le nouveau grain. Cette solution lui convient, elle le rassure, son avenir semble assuré, et il peut se dire à lui-même, verset 19, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Notre homme est arrivé au sommet de ce que la vie peut lui offrir. Il est maintenant suffisamment riche pour se laisser vivre et couler des jours heureux. Est-ce que ça ne serait pas ça, la vraie vie ? Nous sommes peut-être plusieurs à spontanément le penser ce matin. Pourtant, le regard de Dieu sur la vie de cet homme est tout autre. Aux yeux de Dieu, cet homme est un insensé. Il est un insensé et puis il est sous le jugement de Dieu. Cette nuit, dit la parabole, il va mourir. Verset 20, mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, homme insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et cela nous amène à notre troisième point, la parabole expliquée. La question que soulève notre parabole, que soulève le verdict de Dieu sur la vie de cet homme est la suivante. Pourquoi notre homme est-il insensé aux yeux de Dieu ? Qu'est-ce qui est déraisonnable dans son comportement ? Dieu serait-il contre la réussite dans les affaires ? N'est-il pas légitime pour Dieu que l'homme jouisse de ses biens ? Notre homme semble avoir gagné honnêtement ses richesses. Alors où est le problème ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une remarque importante, et elle concerne la richesse. Ce que Jésus met en cause dans cette parabole, ce n'est pas la richesse en soi. Ce n'est pas parce qu'il est riche que notre homme est condamné. Ce ne sont pas ses richesses qui font de lui un insensé aux yeux de Dieu. À ma connaissance, la parole de Dieu ne condamne nulle part la richesse ou l'argent. Ce qui est condamné, par exemple, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent, dit Paul, qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas un péché d'être riche. Ceci dit, s'il est vrai que la richesse en soi n'est pas mauvaise, elle est néanmoins facilement un obstacle à la relation à Dieu, un obstacle au salut, un obstacle à la confiance en Dieu, un obstacle à l'humilité, à la dépendance à Dieu. Il est facile dans l'abondance de croire que notre vie dépend de ce que nous possédons. Pourquoi alors s'encombrer de Dieu ? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 24, Jésus va utiliser une image devenue célèbre pour parler de cette difficulté-là. Pour le salut, mais on peut l'élargir certainement à la relation à Dieu. Jésus parle de la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, disant qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus reproche à notre homme n'est donc pas le fait qu'il est riche. Mais alors, où est le problème ? Pourquoi Dieu appelle-t-il cet homme insensé ou déraisonnable? Et j'aimerais apporter trois réponses à cette question. Premièrement, Dieu appelle notre homme insensé parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie. Nous lisons au psaume 14, verset 1, que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé, le fou, le déraisonnable d'un point de vue biblique, ce n'est pas celui qui a perdu la raison. Celui qui se promène avec un entonnoir sur la tête, ce n'est pas ça l'insensé dans la Bible. C'est celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Notre homme n'affirme peut-être pas que Dieu n'existe pas, mais il vit sans tenir compte de lui. Dieu appelle notre homme insensé parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie. Et cela est visible dans trois domaines. Premièrement, notre homme est insensé aux yeux de Dieu parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie, dans la reconnaissance de l'origine de ses biens. Dans le texte, Jésus dit clairement que c'est la terre de cet homme qui a beaucoup rapporté. Alors il est vrai que c'est l'homme qui laboure, il est vrai que c'est l'homme qui sème, il est vrai que c'est l'homme qui défriche, etc. Mais il est vrai aussi que c'est Dieu qui donne la pluie. Il est vrai aussi que c'est Dieu qui fait lever le soleil chaque jour. Il est vrai aussi que c'est Dieu qui fait germer la graine. Il est vrai aussi que c'est Dieu qui donne la récolte. Et en affirmant que c'est la terre qui a beaucoup rapporté, Jésus souligne que cela vient de Dieu. Il est bon pour nous de nous souvenir que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. C'est lui qui nous donne, par exemple, les forces de travailler, si nous travaillons. C'est lui qui nous donne la capacité de réfléchir pour gagner notre vie, etc. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul va dire cette phrase, chapitre 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est en lui. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. En dehors de Dieu, la vie n'est pas possible. Et si Dieu ne soutenait pas toutes choses par sa volonté, il n'y aurait plus d'existence humaine. Jacques va quant à lui, dire que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tous nos biens et toutes nos richesses nous viennent de Dieu. Notre riche fermier l'a peut-être oublié. Ou bien il ne le sait pas, ce qui paraît difficile dans le contexte juif de l'époque. Quoi qu'il en soit, notre texte est clair pour nous faire comprendre qu'il pense que tout ce qu'il possède, il ne le doit qu'à lui-même. Ce sont mes récoltes, dit-il. C'est mon blé. Ce sont mes biens. Pas un mot pour dire que cela vient de Dieu. Notre homme n'est pas insensé car il est riche, mais parce qu'il ne reconnaît pas la source de ses richesses. Tout est à lui, rien n'est à Dieu. Tout vient de lui, rien ne vient de Dieu. Notre homme n'a pas de place pour Dieu dans la reconnaissance de l'origine de ses biens. Et puis deuxièmement, notre homme n'a pas de place pour Dieu dans sa vie, dans ses projets. Et il est insensé aux yeux de Dieu pour cela. Notre homme a tout prévu, depuis les plans de construction de son nouveau domaine jusqu'à la retraite et à la jouissance de ses biens. Je relis les versets 18 et 19. « Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve, pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mes amis, il n'y a rien de mal à faire des projets. Il n'y a rien de mal à construire une grange plus grande. La prévoyance est une bonne chose. Le problème de notre homme, ou le problème tout court, n'est pas là. Le problème réside dans le fait que notre homme élabore toutes sortes de projets dont Dieu est totalement absent. Voilà le problème. Et quand j'agis ainsi, et si j'agis ainsi, alors je suis un insensé aux yeux de Dieu. Jacques, au chapitre 4, versets 13 à 15, va aborder et dire la même chose. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le problème de faire des projets sans Dieu consiste dans l'arrogance de penser que nous maîtrisons demain, que nous maîtrisons notre vie. Or, demain ne nous appartient pas. Nul ne sait de quoi demain sera fait. C'est pourquoi, quand il fait des projets, l'homme devrait s'en remettre au bon vouloir de Dieu, comme le dit Jacques, si Dieu le veut. Non seulement demain ne nous appartient pas, mais nous sommes en réalité, dit Jacques, bien peu de choses. Une vapeur, dit-il. Qu'est-ce qu'une vapeur ? Si peu de choses. Nous paraissons pour un peu de temps, et l'instant d'après, nous ne sommes plus. Ailleurs, l'Écriture compare la fragilité et la brièveté de la vie humaine à un souffle, à une herbe qui sèche, à un rien. La vie humaine est éphémère et fragile. Demain ne nous appartient pas. Quelle folie pour l'homme d'agir et de penser que c'est le cas. Mais Dieu appelle notre homme insensé parce qu'il fait des projets dont Dieu est absent. Et puis, troisièmement, notre homme est insensé aux yeux de Dieu car il n'y a pas de place pour Dieu dans l'utilisation de ses biens. Il n'y avait pas de place pour lui dans la compréhension de l'origine de ses biens. Il n'y avait pas de place pour Dieu dans ses projets et il n'y a pas de place pour Dieu dans l'utilisation de ses biens, dans la jouissance de ses biens. Verset 19, « Alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Notre homme n'a aucune intention d'utiliser ne serait-ce qu'un centime pour Dieu et sans doute pour les autres. Tout est à lui et tout est pour lui. Bien sûr, donner à Dieu est à la fois un acte de gratitude pour ce qu'il nous donne, un acte de reconnaissance que ce que nous avons nous vient de lui. Quand nous donnons à Dieu, il y a cette compréhension-là par derrière. Mais nous l'avons dit, notre homme n'a pas reconnu que ses biens lui venaient de Dieu. Il est logique de constater qu'il n'a pas de place pour Dieu dans l'utilisation de ses biens. La première réponse à notre question est donc que notre homme est insensé parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu dans sa vie. Alors permettez-moi de personnaliser un petit peu les choses. Qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour moi ? Quelle est la place que j'accorde, que vous accordez réellement à Dieu dans votre vie ? Est-ce que je reconnais que tout me vient de lui ? Est-ce que je fais dépendre de lui mes projets ? Est-ce que je lui montre ma gratitude en mettant une partie de mes biens à son service ? Mes amis, si Dieu devait faire le constat de chacune de nos vies ce matin, que nous dirait-il ? Que me dirait-il ? Que vous dirait-il ? Est-ce que notre vie est insensée ou sage aux yeux de Dieu ? Et nous arrivons à la deuxième réponse que nous apportons à la question, à notre question, pourquoi Dieu appelle-t-il cet homme insensé ? Deuxièmement, Dieu appelle notre homme insensé car il pense et agit comme s'il était maître de son destin. Nous venons de le voir et ses projets le soulignent. Par ses projets dont Dieu est exclu, notre homme montre que Dieu montre, qu'il pense être maître de son destin. Et pourtant, sa vie ne lui appartient pas. C'est Dieu qui tient le sablier de sa vie et de chacune de nos vies dans sa main. C'est lui qui en a déterminé la durée. C'est lui qui en a compté chacun des jours. Et c'est une folie pour l'homme de penser être maître de son destin. Mais c'est ainsi que vit l'homme de notre parabole. Il vit ainsi jusqu'à ce que la réalité de la souveraineté de Dieu le rattrape. Il a fait toutes sortes de projets, sauf celui de se préparer à rencontrer son Dieu. Et Dieu dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Le verbe redemander ici signifie que sa vie, son âme, ne lui a été que prêtée. Dans l'Ecclésiaste chapitre 12, nous lisons que si le corps retourne à la poussière, l'âme ou l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pour tout homme et pour toute femme sur cette terre arrive toujours le jour où il faut se présenter devant Dieu, où il faut rendre des comptes à Dieu pour la vie qu'il m'a prêtée, pour la vie qu'il m'a donnée. Quelle folie de vivre comme si nous ne devions jamais mourir. Bien sûr, personne ne veut penser à la mort. Mais quelle folie de vivre sans prendre en compte cette réalité incontournable. Quelle folie de vivre comme si nous devions rester à jamais sur cette terre, sans jamais nous présenter devant Dieu. Quelle folie de vivre comme si nous étions maîtres de notre destin. Et l'homme riche de notre parabole vit en étant sûr de son destin. Il vit dans la fausse sécurité de ses biens matériels. Nous l'avons déjà dit, il est facile de se sentir en sécurité dans l'abondance. Il est facile de se sentir en sécurité quand le compte en banque est bien garni. Il est facile de se sentir en sécurité quand je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Il est facile de penser que nos biens nous mettent à l'abri du lendemain et de ses aléas. Et alors, il est plus que facile de laisser Dieu en dehors de notre vie et de finir par croire que nous avons toutes les cartes en main. Mais agir ainsi, c'est être insensé aux yeux de Dieu. Et nous arrivons à la troisième réponse à notre question. Pourquoi notre homme est-il insensé aux yeux de Dieu ? Troisièmement, car il n'est pas riche pour Dieu. Verset 21, ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Notre homme est insensé aux yeux de Dieu parce qu'il n'est pas prêt pour le dernier chapitre de sa vie. Il a en effet assuré ses biens matériels. Il a fait tout ce qu'il fallait pour cela. Mais il n'a pas assuré sa vie. Notre homme est peut-être riche, il a amassé toutes sortes de trésors, mais le verdict tombe, il n'est pas riche pour Dieu. Et s'il n'est pas riche pour Dieu, c'est qu'il est pauvre pour Dieu. Et notre homme n'est pas riche pour Dieu parce qu'il a égoïstement vécu à l'évidence sa vie que pour lui-même. Il n'a accumulé des richesses que pour lui-même. Et c'est les mains vides qu'il va se présenter devant Dieu. Parce qu'en réalité, rien de ce qu'il a accumulé sur la terre ne va faire le voyage avec lui. Et d'ailleurs, Jésus le souligne à la fin du verset 20, « Et ce que tu as préparé, ce que tu as amassé, à qui cela ira-t-il ? » L'Ecclésiaste va dire la même chose. Le sage de l'Ecclésiaste va dire la même chose dans un passage assez connu. « Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. » C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? Et Paul va dire la même chose à Timothée. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous pouvons entasser, accumuler, empiler, engranger, stocker tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons pour nous-mêmes, mais nous n'emporterons rien avec nous de tous nos biens terrestres quand nous quitterons ce monde. Quelqu'un demandait un jour au voisin d'un homme extrêmement riche qui venait de décéder, combien a-t-il laissé ? Et le voisin a répondu très sagement, tout. Que je sois pauvre ou riche, je n'emporterai rien avec moi pour le dernier voyage. Et les paroles de Jésus au verset 20 vont souligner encore une autre réalité. Non seulement nous n'emportons rien avec nous, mais ce sont ceux qui restent, ce sont d'autres qui jouiront de nos biens. Et ce que tu as préparé, dit Jésus, à qui cela ira-t-il ? Toujours le sage dans l'Ecclésiaste, car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Et le psalmiste au psaume 49 dit encore une fois la même chose. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leur bien. Voilà une réalité concernant nos biens terrestres dont il nous faut bien prendre la mesure. Car ce qui compte pour Dieu avant tout, c'est d'être riche pour lui. La troisième réponse à notre question est donc que Dieu appelle notre homme riche insensé parce qu'il n'est pas riche pour Dieu. Il aurait pu être riche de biens terrestres et être riche pour Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Et il va se présenter les mains vides devant lui. Alors que signifie, et je termine, être riche pour Dieu ? Être riche pour Dieu, c'est investir dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu. C'est investir dans les choses qui ont une portée éternelle. Quand je dis investir, c'est pas seulement mon argent, mais bien évidemment, ça en fait partie, mais c'est mon temps, c'est mon énergie, c'est mes talents, c'est mes capacités, c'est tout ce qui fait ma vie et ce qui me fait moi-même. Les mettre d'une manière ou d'une autre, et chacun le fera dans des proportions qui lui appartiennent, le mettre au service de Dieu pour l'avancement de son règne, de sa cause, de son évangile. Être riche pour Dieu, c'est vivre sa vie dans la perspective de l'éternité. C'est vivre en tenant compte du fait que Dieu va nous demander des comptes. C'est vivre en tenant compte de Dieu. C'est vivre en laissant Dieu, par sa parole, avoir un droit de regard sur ma vie, sur mon temps, sur mes moyens, sur ma vie tout entière. Et quand j'agis ainsi, alors je deviens riche pour Dieu et j'amasse des trésors dans le ciel. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira dans le sermon sur la montagne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mes amis, qu'en est-il de chacun de nous? Je ne vous demande pas si vous êtes riche matériellement, parce que nous le sommes tous ici dans cette salle, à des degrés divers, bien évidemment, mais nous le sommes tous, dans le monde occidental, à quelques exceptions, bien évidemment. Parce que la vraie question pour nous, ce n'est pas la question de la richesse matérielle, elle est importante aussi, mais c'est de savoir si nous sommes riches pour Dieu. Est-ce que nous sommes riches pour l'éternité? Est-ce que nous amassons des trésors dans le ciel? Alors la question qui vient ensuite est celle-ci, comment savoir si je suis riche pour Dieu? Et je pense que le texte de Matthieu nous donne une piste quand il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc la question est de savoir où est mon cœur. Qu'est-ce qui occupe la place dans mon cœur? Est-ce que Dieu a de la place dans mon cœur? Si c'est le cas, alors je suis sûr que nous sommes riches, d'une manière ou d'une autre, pour Dieu. J'aimerais vraiment terminer cette fois-ci en vous laissant une citation de Jim Elliot, petite citation à méditer. Jim Elliot est un missionnaire du siècle dernier qui est mort martyr en Équateur en évangélisant une tribu dont j'ai oublié le nom. Il est mort à l'âge de 38 ans. Lui et ceux qui étaient avec lui ont été tués par les sagaies de la tribu. Et il y a plusieurs citations très célèbres de Jim Elliot et celle-ci en fait partie et je termine avec ça. N'est pas insensé qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. Que Dieu nous accorde la grâce d'être de celles et de ceux qui trouvent l'équilibre difficile dans notre vie. Entre d'un côté la jouissance de nos biens, que Dieu ne condamne pas, et puis, au même temps, suffisamment de désintéressement de ces mêmes biens pour accumuler des trésors pour l'éternité. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation.